Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino, je vous présente mon co-animateur David Jonfe. David, est-ce que tu te sens tout nu parce qu'on n'avait pas d'extrait au début de l'émission?
Écoute, tu me prends complètement au dépourvu, je suis Tu m'enlèves les mots de la bouche, je suis perturbé.
Ouais,
je pense que je vais être capable de faire l'émission, Sébastien.
Mais en fait, aujourd'hui, là, j'ai choisi quelque chose de particulier. Je trouve. Quelque chose qui me... J'ai choisi une émission que j'avais déjà vue. Puis tu sais, on est comme... D'habitude, on a un petit blabla au début. On est un peu en train déjà de parler de ce qu'on va parler. Mais je voulais marquer cet épisode. Je voulais qu'il soit différent. Parce que ce qu'on a vu, hein, m'avait marqué la première fois que je l'ai vu. Fait que j'ai décidé de je me suis dit, c'était une occasion de faire de quoi de différent dans Vision X. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine? Après 84 épisodes, c'est de pimenter notre vie de couple. Mais...
je tiens juste à rectifier, ce n'est pas une vie de couple. Mais Vision X a évolué beaucoup au cours des 84 derniers épisodes. Fait que des fois, de temps en temps, qu'il y en a un peu différent, qu'on essaie des nouveaux trucs, c'est correct. Mais surtout qu'on essaie des nouveaux trucs, c'est pas pour rien. C'est parce que l'épisode de la semaine est sur une émission vraiment particulière. On fait des épisodes de séries télévisées là, au mois de février. Donc, sur un épisode où qui est extrêmement dark. C'est difficile de tourner ça vraiment au drôle.
Oui. Puis pour l'occasion, donc... j'ai même ressorti ma vieille chaise qui craque. C'est comme les premiers épisodes de Vision X. Avant qu'on se lance dans la déprime, là, comment ça va?
Écoute, ça va bien, à part ma petite fille qui recommence à être malade, encore une fois.
Pas une autre gastro, toujours?
Non, c'est okay. Juste un rhume, là, mais... La garderie, hein.
Ah là, mais écoute, c'est une vraie usine à microbes, mon Dieu, ouais. Seigneur. Est-ce que les parents de ta garderie organisent des parties de genre varicelle, sais-tu?
C'est ça. Même, ouais. On arrive, on est obligé de se licher les mains toute la gang les uns les autres avant de... Non, parce en entrant et en sortant.
Tu sais que c'est une chose qui existe, hein, les parties de varicelle?
Ah ouais, hein, pour pogner volontairement la varicelle?
Les gens qui ont la varicelle invitent les amis de leurs enfants à la maison pour qu'ils viennent la pogner aussi. Question de régler ça. Parce que moi, j'ai pogné la varicelle à 12 ans. Là. Ouais. J'ai manqué 2 semaines d'école, hein, parce que... Ils te laissent pas retourner, hein, de sitôt.
Mais sinon, le gros nouveau de ma semaine, en fait, c'est que j'ai joué à Donjon hier. Avec notre très bon ami Philippe Legault,
maison.
Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas été maître de jeu. C'est vraiment, vraiment le fun.
Ah ouais, c'est vrai. Il m'a dit que t'étais en train de... Il était en train de te préparer quelque chose. Là.
Ah non, mais... Puis en plus, Philippe, tu sais, il a des idées tellement pétées, là, des affaires vraiment cool.
Tu dis?
Fait que... Ben, tu sais, en tout cas, on revisite... des choses qu'on a faites dans une ancienne campagne, mais c'est des... Comment je pourrais dire ça? On n'a pas nécessairement... C'était moi le maître de jeu, mais on n'a pas nécessairement le même souvenir de ce qu'on a fait. Donc lui, les détails qui lui l'ont frappé, c'est pas nécessairement les détails que moi m'ont frappé. Ouais. Fait que tu sais, on revisite des choses qu'on a déjà faites, mais à la saveur Philippe Legault et non pas à la saveur David Jonfe. Puis, je peux le dire, c'est pas un secret quand même pour toi, là, mais je joue Sylvette, là, mon High Wizard Archmage level 31. Man, il y a eu une fight, là. Le premier combat, c'était lent parce que la créature contre laquelle je me battais était invulnérable. Voyons, était... Immunisé, voilà, à tous les powers que j'avais, sauf mes Magic Missiles. C'était long, là. C'était vraiment long. Mais la deuxième fête, il y avait plein de monde, puis il n'y a personne qui était immunisé à rien là-dedans. Ça a duré un round. En fait, le premier round n'a pas fini. C'est comme au méchant, puis après ça, moi, j'ai activé, puis c'était fini. Tu sais, un Wizard de niveau 31, oh, quand ouais. Tu sais qu'il pète sa coche, là.
Quand il pèse le piton à mitraillette, là, tu sais.
Ben en fait, c'est que le mon Archmage, tu sais, il y a comme l'espèce de... Il y a un power qui s'appelle Chain Lightning.
Ouais.
Puis, il peut le... C'est comment ça s'appelle? Maximize.
Ouais.
Fait que... Il y a le
oh, OK, ouais. OK.
Ça
ouais.
Fait le maximum.
Ouais, je viens de voir, là. Je viens de comprendre.
C'est ça, fait que ça fait 20 des 6 maximum, donc 120 points de dégâts à pas mal tout le monde dans le coin.
Aïe.
Puis après ça, je peux en faire un autre quickened.
Holy shit! Ouais, ok, non, c'est...
Le combat n'a pas été très long.
Ah, ouf.
Ça a duré moins d'un round.
C'est beau.
C'était beau. C'était le fun. Puis bravo à Philippe, son histoire est hallucinante.
Ah, ben, c'est il m'en a parlé ça fait un bout de temps qu'il a hâte, là.
Mais toi, parle-moi de ta semaine.
Grosse semaine. Ben, en fait, j'ai passé une super belle fin de semaine avec l'ensemble de la ville de Montréal au centre d'art d'Harford. Fait que c'était cool. Parce que là, Maria, qui dirige, en tout cas, celle qui dirige l'ensemble-là, va la semaine prochaine, elle a du césarienne. Fait que à partir de mercredi, c'est moi qui prends l'ensemble pendant qu'elle n'est pas là pour les amener au Music Fest puis tout ça. Fait que. Non, c'est une belle gang, là, tu sais, c'est des musiciens amateurs. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont pas eu de formation en musique, mais ils se donnent vraiment, vraiment, vraiment à fond. Ils font. Dans le fond, je trouve ça inspirant, tu sais, parce que nous autres, on a eu la chance d'avoir une formation musicale de haut niveau, là, je veux dire. Puis, je trouve ça hâte de voir des gens se lancer dans des trucs. Tu sais, ils jouent une tonne en grade 5, là. Tonne tough, avec plein de gros changements de mesures rythmiques hyper complexes, là. Puis, tu sais, on a fait 6 heures de sectionnel, là, samedi, plus des répètes, plus ça, puis ils l'ont fait, puis ils sont énormément améliorés, mais moi, j'aime ça, regarder le courage de ces gens-là, puis le côté de faire, hey, regarde, tu sais, on va faire le maximum, tu sais, de se dépasser, puis je leur ai dit, parce qu'ils disent, quand ils ont eu la toune, au début, ils disaient, on sera jamais capable de faire ça, tu sais. Puis je leur ai dit, il faut. C'est important de jouer des choses qu'on n'est pas capable de faire, tu sais, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais de voir du monde qui font ça pour le fun, se lancer dans une aventure de même, là, je trouve que c'est vraiment cool. Puis, non, j'ai super belle gang, on a eu bien du fun. Fait que, non, je suis fatigué parce que, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça avoir une journée de congé, là. Tu sais, quand tu considères que je travaille le jour et le soir la plupart du temps. Là.
Écoute, l'année scolaire, ça en vient à
ça. Quand j'ai 4 soirs semaine que je suis occupé en plus de jours, mais c'est, quand tu fais des choses comme ça, ça te donne quand même l'énergie de pas te fatiguer et de pas te ramasser en boule à terre, mort à quelque part. Mais, mais c'est ça, c'est le plaisir de travailler avec des musiciens amateurs, moi, je trouve, là, c'est ça. C'est ce que des professionnels te donnent pas en même temps. Parce que c'est une autre chose, là, mais c'est ça.
Fais bien attention à ce que tu dis.
Non, je sais, il y en a d'autres qui avaient écouté, mais on le sait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le fun d'émission professionnelle, mais ça n'a pas le même. Tu sais, c'est comme un enfant, tu sais, un peu, genre, un musicien amateur. Il y a l'espèce de découverte là, à chaque fois, puis d'émerveillement que. Avoue que t'as pas tout le temps quand tu fais une gig.
Ben, c'est aussi de trouver ce qui est intéressant dans le programme que tu es en train de faire. T'sais. J'avais un concert hier, moi, justement, hier après-midi, un concert. Je jouais 10 minutes dans un concert de 2h15. Je faisais acte de présence. Mais je faisais le solo de. C'est une espèce de petit arrangement pour trio, là, piano, guitare et corps anglais du deuxième concerto d'Aaron Ruiz. Mais c'était super cool. T'sais.
Ben, c'est ça.
C'est de trouver aussi qu'est-ce qui te plaît dans chacun de tes contrôles.
L'important. En tout
cas, bref.
C'est de s'amuser. L'important, c'est ce qui compte, puis c'est de s'amuser. Donc...
L'important, c'est ce qui compte. Voilà.
Là-dessus, David, maintenant, On a voulu être sweet puis le fun au début de l'émission parce que c'est terminé. Présente-nous le film
Down the Rabbit Hole
de la semaine.
Cette semaine, nous avons écouté le deuxième épisode de la deuxième saison de Black Mirror, un épisode qui s'intitule White Bear. Le synopsis de ce... Est-ce qu'on a passé le deux semaines? Oui, on a passé le deux semaines.
Oh,
c'est un épisode qui date de 2013. Ça fait vraiment un bout de ça. Donc, ce qui se passe, c'est que le personnage principal du nom de Victoria Skillane,
ouais.
Quelque chose comme ça, se réveille dans une chambre d'une maison et elle n'a aucun souvenir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Et elle se sauve. Et partout où est-ce qu'elle se sauve, il y a des gens qui la regardent et qui la filment avec des cellulaires, mais qui ne lui parlent jamais et qui n'entrent pas en contact avec elle. Les seules personnes qui rentrent en contact avec elle, c'est des weirdos au bout, là, avec des cagoules, des masques d'animaux, des affaires vraiment, vraiment étranges. Et puis, là, d'ailleurs, Sébastien est en train de prendre une photo de moi, justement. Et puis...
C'est pour les médias sociaux.
Comment tu dis?
C'est pour les médias sociaux. C'est important.
Et... Donc, de fil en aiguille, elle se fait dire qu'il y a, au travers des ondes de la télévision et de la radio, un espèce de truc de mind control sur la population, tout ça. Donc, ils essaient, elle et une amie qu'elle rencontre, qui s'appelle Jem, je pense, ouais, c'est Jem, qui ils s'en vont vers la station de télé pour la détruire, détruire les antennes, tout ça, pour... brouiller le signal. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle rentre dans une scène, dans un endroit, elle trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois. Et finalement, à la fin, on réalise que, en fait, c'est un zoo. Elle habite dans un zoo prison et qu'elle est la seule pensionnaire du zoo prison. Elle a tué avec son conjoint une petite fille dans le bois et sa punition, c'est de revivre essentiellement ce que la petite fille a vécu et ce qu'ils lui ont fait vivre à cette petite fille-là. Et il y a des gens qui vont dans ce zoo-là. C'est tous les gens qui sont autour d'elle, qui la regardent et qui la filment, comme dans un zoo. Mais la directive pour ces gens-là, c'est de ne pas rentrer en contact avec elle sous aucun prétexte pour leur sécurité. Donc, personne lui parle, personne lui vient en aide, même quand elle panique, puis il y a tout le temps des gens qui sont à côté en train de filmer. En tout cas, c'est vraiment weird. Donc, c'est ça le synopsis. Essentiellement, on se trouve dans un zoo, mais évidemment, c'est pas présenté comme ça.
Black Mirror, au cas où vous ne connaissez pas Black Mirror, c'est une espèce de je dirais, comme de Twilight Zone, 21e siècle, où...
En fait, c'est vraiment le même feeling que dans Twilight Zone.
Là, dans Black Mirror, c'est qu'on essaie d'utiliser souvent la technologie pour nous mettre dans des on prend quelque chose de notre société, souvent relié à la technologie, et on l'amène à son extrême, tu sais. On prend la ligne, puis d'ici, on se rend au bout de ça. Si on va vraiment à l'extrême là-dedans, qu'est-ce que ça va donner, OK? Fait que ça donne toujours des choses absolument horribles. White Bear, ce que je trouve génial de cet épisode-là, c'est que oui, il y a un aspect énorme où on prend quelque chose de la technologie qui on amène à
son paroxysme.
À son paroxysme, qui est le téléphone cellulaire. Et le fait qu'on est toujours en train de faire, comme je faisais avec David, je prenais une photo pour mettre sur les médias sociaux.
C'est un peu
sociaux.
Weird que je parle de ça, puis là, toi, tu sors là.
Les gens, ils deviennent complètement, premièrement, là, juste accro. Ils voient les choses. C'est ça, d'une première affaire dans l'épisode. Tout le monde regarde tout à travers son téléphone. Personne assiste à un événement en le regardant de ses yeux. Puis c'est vrai, on est en 2018 aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et c'est tellement rendu un fléau, là, qu'il y a des artistes, il y a des chanteurs populaires qui font enlever les téléphones avant leur spectacle. Les gens sont obligés de laisser leur téléphone cellulaire à un endroit. Sinon, ils peuvent se faire sacré dehors par la sécurité pour deux raisons, ok? Parce que tout le monde filme puis met des extraits sur les médias sociaux. Et parce qu'il y a des artistes qui disent « Sacrement, t'es là en train de regarder mon show. Regarde mon show. Regarde-moi pas à travers ton téléphone. T'sais. Sinon, viens pas. »
Mais c'est vrai que le concept, la critique sociale de cet épisode-là est vraiment sur le fait, de, comme tu le dis, là, de ce fléau de l'écran. On voit toute la vie à travers l'écran. Mais comment je pourrais dire ça? Je suis partagé sur cet aspect-là. Ben parce que
ben c'est un aspect mineur, là. Je te l'accorde.
Non, mais suis-moi bien, tu vas voir. Il y a l'aspect de moi qui est vraiment, comme tu le dis, outré. Là. C'est comme si ma femme est en train d'accoucher, puis j'avais sorti mon vidéo, mon cellulaire pour filmer l'accouchement, la sortie de ma fille. Là, t'sais. Non, je suis là, je suis dans le présent, je veux pas être détaché de l'instant que je suis en train de vivre. T'sais, je veux être dedans avec les deux pieds dedans. Là, t'sais. Donc, je sortirai pas mon cellulaire. Il n'y a pas de photo de ça. Là. Je l'ai vécu à 100% à la naissance de ma fille. J'étais là, j'ai des images mentales. C'est gravé dans ma tête pour le restant de mes jours. Donc, ça, il y a vraiment cet aspect-là, puis je suis d'accord avec toi. Par contre, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Puis là, je te donnerai l'exemple de ma belle-mère. Tu connais un peu ma belle-mère, la mère de ma femme, qui, elle, souffre d'une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire, qui fait en sorte qu'elle perd son champ de vision. Puis son champ de vision est tellement petit, car essentiellement, elle regarde à travers une paille, là, les petites pailles blanches. Là. C'est la grosseur de son champ de vision, ça. Pour elle, un immense écran de télévision, ça sert à rien. Elle n'est pas capable de le voir. Ce qui est absolument merveilleux pour elle, c'est son cellulaire. Parce qu'elle peut prendre une photo, elle peut prendre une vidéo, puis tout voir, ou presque tout voir, d'un coup d'œil. T'sais. Mais là, évidemment, on parle d'un espèce de palliatif technologique à un handicap. On n'est plus du tout dans la critique sociale des gens qui ne sont pas présents au moment d'un événement. T'sais. Mais bref, je peux voir l'intérêt de ça du point de vue médical, disons.
Ouais, parce que dans le fond, ce que tu dis, là, tu parles de la technologie au service de l'être humain. C'est ça que tu dis. C'est que la technologie rend service à l'être humain. Tandis que de l'autre côté, c'est quand la technologie, quand l'être humain est au service de
la technologie.
C'est ça. Puis le fait qu'ils sont de même, là, avoue que tu sais, t'as jamais vu l'épisode, mais tu y crois là, qu'il y a un signal, qu'il y a quelque chose, qu'ils sont comme zombifiés là, par leur téléphone et leur télé. Là.
Ben, on le gobe.
Ben oui, pourquoi? Mais moi, ce que j'ai trouvé débile, c'est que, tu sais, après avoir vu cet épisode-là, c'est ça, je me promenais, puis j'allais à la plage, je voyais des places, puis je voyais tout le monde avec leur téléphone, puis même moi, des fois, qui marche, puis qui regarde mon téléphone, puis je faisais comme, ah, man, sacrément, on a déjà des zombies.
Ouais. Mais, comment je pourrais dire ça? D'après moi, dans la vie, là, il y a beaucoup de balanciers. Puis là, on est allé dans un extrême. On a toujours été dans un extrême. Puis là, on s'en va à l'extrême opposé parce que les cellulaires ont pris de la place depuis, mettons, une dizaine d'années. Là, on est capable de faire des films d'une façon absolument merveilleuse. Puis il y a vraiment des bons côtés à ça.
Ouais. Je suis d'accord, c'est vrai. Là.
Puis tu sais, je vais y revenir dans deux secondes, mais bref, on est allé vraiment à l'extrême opposé. Éventuellement, je pense que le balancier va revenir, puis on va trouver un juste milieu entre le pas de cellulaire pantoute puis un grand cellulaire. Puis, c'est-à-dire une vie à travers notre cellulaire. Mais une chose qui est vraiment intéressante, par contre, puis qu'on ne réalise pas nécessairement maintenant à quel point c'est vraiment positif, cette chose-là. C'est parce qu'on voit juste l'aspect zombie du truc, là, mais il y a quelque chose de bien aussi à ça, c'est qu'on garde tellement d'archives comme on n'en a jamais gardé avant. Fait que tu sais, pensons à la postérité deux secondes. Là. Back. Qu'est-ce que je donnerais pas, moi, pour avoir une entrevue avec Back?
Ah, ça, c'est clair. Jean-Sébastien.
J'aimerais ça le voir, comment, de quoi il avait de l'air de monsieur, comment il pensait, c'était quoi sa journée. Mais évidemment, on le saura jamais comment il a joué sa musique, Bach, lui. Ces improvisations que tu faisais tous les dimanches à l'église, là, ça avait l'air de quoi? On le saura jamais. Tu sais. Mais est arrivé dans les années 80, mettons, les Super 8 et les compagnies, là. J'ai, cette semaine, ma belle-mère m'a donné une vidéo de ma femme, de Nancy, quand elle était toute petite. Parce qu'elle jouait du violon. Elle avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus trop. On a fait la même. Là. Puis elle jouait du violon. D'ailleurs, c'était super bon. Violoniste professionnel aujourd'hui, c'est pas pour rien. Là. Mais la postérité, c'est incroyable. Quelle richesse d'avoir ce petit vidéo-là de 3 minutes pour que ma fille puisse voir de quoi sa mère avait de l'air quand elle avait 5 ans. Mais là, aujourd'hui, grâce à mon téléphone, j'en prends plein des vidéos de ma petite fille. J'en prends plein. Ça n'a jamais été aussi facile. Puis j'en prends 8 photos de ma petite fille, puis je délite 7 qui sont pas belles, puis je garde celle qui est bonne. Puis celle qui est bonne, étant donné que photo live de machin chouette, je suis capable de sélectionner dans les 24 images que ça a pris dans la seconde, laquelle exactement je veux. La photo est toujours parfaite. Le vidéo est toujours bon. C'est tellement facile que pour la postérité, c'est fou le travail que ça fait, ça.
Ah, c'est clair.
Donc, mais tu sais, il y a l'aspect négatif quand ça nous décroche de la vie de tous les jours, ça nous empêche de vivre pleinement le moment présent parce qu'on pense toujours à l'avenir. Mais dans l'avenir, ça va être le fun d'avoir ces archives-là. Il y a comme une espèce de dichotomie là-dedans. Oh, c'est mon laissement. Non, mais tu sais, il y a quand même ces deux régimes-là. Là, on va peut-être un peu trop dans l'extrême de l'archivage, si on veut, de nos souvenirs dans le moment présent qui nous empêche de le vivre en ce moment, dans le moment présent. Mais il n'y a pas juste du négatif à la zombification.
Non, parce que Black Mirror nous montre un peu qu'est-ce qui va arriver si on s'en sort pas comme il faut. C'est vraiment ça le rôle. Mais là où l'épisode White Bear vraiment frappe, parce que oui, il y a toujours l'aspect technologique, ce n'est pas dans l'aspect technologique qui vient vraiment nous chercher.
Non, c'est dans l'aspect voyeurisme, moi, je trouve que c'est venu me chercher.
Oui, mais oui, l'aspect voyeurisme, parce que, et dans l'aspect de la justice, de notre relation face à la justice, on comme société, comme personne, comme peuple, je crois qu'on se plaint souvent de la lenteur de la justice. On se plaint souvent du principe que quelqu'un est innocent jusqu'à la preuve du contraire. C'est con, là, mais on voit quelqu'un qui a été accusé de quelque chose et on veut le voir se faire pendre. On est en 2018, là, mais on veut encore, d'une certaine façon, voir l'exécution publique. On veut voir ça. Puis quand ça arrive pas, parce qu'on n'est pas capable de prouver hors de tout doute que la personne a commis un crime, on est en maudit contre le système, puis on parle contre le système. Ou, moindrement, quelqu'un là, se fait accuser de quoi que ce soit. Ça sort dans les journaux. Pour nous, collectivement, comme société, il est coupable. Mais ça se peut que non.
Oui, absolument.
Et on se ramasse là dans une situation où cette femme-là est un peu...
On ne sait pas si elle est vraiment coupable.
On ne sait pas.
Puis d'ailleurs, la façon dont on s'est présenté, c'est un peu flou.
C'est... On ne sait pas trop. On ne comprend pas trop si elle... Parce qu'elle a dit que elle était comme sous charme un peu de l'autre, était sous son contrôle du gars. Puis dans le fond, ils ont kidnappé une petite fille, puis ils l'ont tuée, puis ils ont caché son corps. Tu sais. Puis le gars, lui, c'est... Il s'est pendu dans sa cellule, puis elle s'est fait condamner à être exposée de même devant tout le monde, tu sais. Puis les gens sont là, puis à tous les jours, ils viennent, puis ils se plaisent, elle a crié après, puis elle a pitché des tomates dessus, puis on lui fait vivre un supplice horrible, parce qu'à tous les jours, elle revit cette journée-là où elle est humiliée, elle revit son humiliation, et on lui efface la mémoire, puis on recommence le lendemain. C'est dégueulasse, ok? C'est horrible. Donc, ça, je disais, c'est qu'on finit par se poser la question, qui est pire? Elle qui a été coupable d'avoir été témoin d'un meurtre, d'avoir été comment on dit,
mais c'est ça, mais c'est qu'on sait pas s'il est complice ou non. Puis, évidemment, ils lui ont effacé la mémoire, fait on le saura jamais. Les gens ne le savent pas. Elle-même ne le sait pas.
C'est ça. Puis en même temps, ça nous met face un peu à ce que c'est la justice. Est-ce que vraiment on cherche la justice? Ou on cherche la vengeance?
Mm-hmm.
Mm-hmm. C'est pour ça que, tu sais, dans toute la discussion, mettons, sur la peine de mort, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont comme, mais il a tué quelqu'un, on devrait faire la même chose. Mais là, est-ce que t'es, tu sais, l'argument au contraire, c'est, ouais, mais t'es pas mieux que la personne qui le fait, dans un sens, là, on s'entend, là.
Et surtout, tu parles de vengeance, justement, tu sais, on rentre pas dans le débat politique de la peine de mort, mais,
ouais.
Comme moi, je compte, là, mais ça rapportera pas, ça réparera rien.
Ah non, ça répare rien, puis dans le fond, c'est ce que l'épisode nous montre. Est-ce que ça répare quelque chose? Est-ce que ça ramène notre fille? Non, les gens, la société, là, en bout de ligne, là, est appauvrie par ça, là. Regarde ce qu'ils sont devenus. Ils voient là, une personne souffrir le martyr jour après jour. Et ils payent pour aller voir ça. Et ils filment avec leur
téléphone. Pour aller voir une torture. Ça. En tout cas, c'est weird. C'est weird. Ah, mais d'une façon ou d'une autre, bon, on va laisser le combat peut-être un peu plus deep là, pour en revenir plus à notre scénario. Mais, si tu me permets. Mais quelle tournure brillante d'un concept assez simple, en fait. Parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cet épisode-là, c'est la façon dont l'auteur a réussi à trouver une idée, mais à nous la présenter sous un angle totalement différent qui change complètement la perspective de l'histoire de base. Quelle merveilleuse façon de tourner une histoire! Ça me fascine, moi, les scénaristes qui réussissent à retrouver des nouvelles façons rafraîchissantes de nous donner des histoires. C'est pas un point A au point B au point C au point D. On part tout de suite par le numéro 3.
Ouais.
C'est même pas un enchaînement de lettres. Là. On est rendu à côté complètement. Là. On voit l'histoire de billets. T'sais. Je trouve ça vraiment le fun comme présentation. Très rafraîchissant, en fait. Le sujet traité est assez lourd, mais que ça fait du bien.
Ah, ouais, ça fait du bien. Super bien. Moi écoute, il y a une affaire que j'ai trouvée débile dans toute la réalisation de ça. Là. C'est le générique à la fin.
Ah oui, ah oui.
C'est très, ah très oui. Bon. Où on voit l'envers du décor, tu sais.
Ouais.
Ah, c'est...
La remise à niveau du truc avant le lendemain, tu sais.
Ouais. Puis là, après ça, on voit comment ils accueillent le public, puis comment ils font les affaires, puis comment... Ah, c'est... J'ai trouvé ça cool, puis encore une fois, ça rajoute une couche.
Ça finit comme pas. C'est que ça nous donne une idée de la continuité du truc, puis de la boucle du truc, parce que c'est pas juste une journée, tu sais, parce qu'on la voit justement, comme tu dis, l'envers du décor. Donc le lendemain, il y a d'autres gens qui viennent, puis le surlendemain, il y a d'autres gens qui viennent, puis le surlendemain, il y a encore des gens qui viennent. Fait que ça nous donne une idée de la répétition du truc, du jour de la marmotte du truc.
Ouais, puis ça nous fait je crois que quelqu'un qui regarde l'épisode, puis il est de l'opinion justement par rapport à qu'on parle de criminels, de comme ben, on devrait y faire subir la même affaire, ou on devrait y faire ci, on fait ça. Je veux dire, quelqu'un qui regarde cet épisode-là, qui est pas hypocrite, puis qui est capable de discuter d'une opinion, disons, qui est ouvert aux opinions des autres, je suis pas sûr qu'il garde cette opinion-là quand il arrive à la fin de l'épisode.
Mm-hmm.
Parce que justement, avec ce générique-là, ça fait comme, mais mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de mot du bon sens, tu sais. C'est inhumain, tu sais. Puis, ouais, c'est, je trouvais ça vraiment... Mais comme je dis, c'est un épisode qui, même si, tu sais, OK, on a parlé, on a peut-être dit le punch un peu en écoutant. Si vous avez écouté l'épisode, vous avez jamais vu... Si vous avez écouté Vision X, vous avez jamais vu White Bear. Mais savez-vous quoi? Ça change rien. Ça va être aussi bon. Ça vaut autant la peine regarder, puis ça va générer autant de pensées.
D'inconfort aussi.
Ouais, que si vous saviez pas... Puis mon conseil, là, c'est ne regardez jamais Black Mirror en rafale. tu peux pas écouter genre...
De toute façon, il n'y a, pas tant d'épisodes que ça.
Ouais, il y en a un peu plus dans les nouvelles saisons, mais sinon, c'était 3 par saison, mais tu peux pas regarder 3 épisodes de même dans la même journée. Là. Tu peux pas.
Non, c'est un peu trop deep, là. C'est un peu trop intense.
Puis après ça, genre, écoute un épisode de Seinfeld, tu sais, ou quelque chose. Genre, Brooklyn Nine-Nine, n'importe quelle connerie, genre. Juste...
The Office.
Ouais, juste parce que, comme ça, t'auras moins envie de t'ouvrir les veines, tu sais, après. Parce qu'on s'entend, là. C'est vraiment, vraiment lourd.
Ça, ah oui, non, c'est assez lourd, ouais.
Les acteurs, là, qui font un travail absolument phénoménal, mais genre grandiose, puis c'est tout ça est lidé par Lenora Crichlow, en tout cas, qui fait...
Off, c'est peut-être une rue, c'est Crichlow.
En tout cas.
W. C-R-I-C-H-L-O-W. En tout cas, si jamais vous savez comment prononcer.
Elle est née à Londres. Fait que, en tout cas.
Non, mais ça ne veut pas dire que ses parents sont pas russes. Là,
ça n'existe pas, ça, à Londres. Mais, écoute, elle est absolument incroyable. Je sais pas qu'est-ce que tu as trouvé, toi.
Ben évidemment, l'histoire est centrée autour d'elle. C'est notre personnage principal. C'est elle qui se fait persécuter, ou en tout cas, c'est la prisonnière de ce zoo. Et puis, comment je pourrais dire ça?
C'est...
On comprend l'espèce de perte de contrôle sur ce qui lui arrive, la panique totale. La peur constante, parce qu'elle vit dans un monde de peur, tu sais. Il y a des gens qui courent après avec des machettes constamment, puis il n'y a personne qui veut l'aider. Elle vit dans un monde totalement, totalement malaisant. Mais elle, c'est sa réalité, tu sais. Puis on y croit, on rentre dans ce monde-là grâce à la vision de son inconfort et au fait qu'elle est capable de nous transmettre cet inconfort-là. C'est la grande réussite, en plus du scénario, la grande réussite, d'après moi, de cet épisode-là, où justement, on réussit, par le jeu des acteurs, par la photographie aussi, puis les lieux qui ont été choisis, à nous imposer cet inconfort-là.
Puis, je l'aimais déjà avant, parce que elle a joué dans Doctor Who, dans un épisode de Doctor Who. OK?
Ah ouais? Lequel?
Gridlock.
Gridlock.
Tu sais l'épisode où ils sont pris dans le gros bouchon là, à New York, là, dans l'espace
ah,
de
ouais,
route.
Ah ouais, ouais, ouais.
Ben, tu sais, le docteur il aboutit dans le char d'un couple, d'un jeune couple.
Ouais, ouais.
Ben, c'est la fille.
Ah, c'est elle.
Dans le couple. Mais, ouais, écoute, elle est exceptionnelle, puis on sent tellement là, son espèce de désarroi, là, puis de... Tu sais, sa panique, puis... Ah, man... Tu capotes pour elle au début, là. Mm-hmm. Man, quand elle voit le dude là, qui s'en vient avec son gun, là, qui se met à courir après, puis se met à tirer dessus, puis tout le monde qui... Quand elle court après avec un gun... Ah ouais! Puis les gens, ils filment, là. Puis elle demande de l'aide, elle crie à l'aide, puis... Ah! Ah, c'est une... Je trouve que c'est une magnifique performance. Ensuite, on a Michael Smiley, qui fait Baxter. C'est le gars qui gère l'espèce de...
Le zoo. Mais lui, on l'a vu souvent dans beaucoup de choses.
Ouais.
Puis, comment je pourrais dire ça? Il est excellent. Il est tellement creepy.
Ah ouais, ouais. Ah ouais.
À vous, là. Parce qu'il joue. C'est lui qui gère le truc, mais c'est aussi lui qui joue un rôle où il fait semblant qu'il aide. Victoria, l'héroïne, la victime, en tout cas, je ne sais pas trop comment dire ça, mais bref, il fait à croire qu'il va l'aider, mais finalement, il l'amène dans le bois pour la torturer, puis la tuer, puis en fait, il fait ce qu'ils ont fait à la petite fille. Là.
Ouais.
Et il veut donc reproduire sur Victoria ce qui a été fait. Bref, creepy. Ah!
Ah non, il est dégueulasse.
Il est vraiment dégueu. Mais bon acteur!
Oui, puis, mais le plaisir qu'il prend à la torturer, là. Oh! Ben tu le sens dans son jeu, là. Tu sais, qu'il aime ça, et qu'il est comme... Oh, c'est dégueulasse! Il y a une autre... Il y a une connexion à Vision X et Doctor Who, ce gars-là.
Et Vision X.
Ouais. Il a joué un zombie dans Shaun of the Dead.
Mais tu sais, moi, je trouve ça fantastique quand on a un acteur qui réussit vraiment à nous faire détester son personnage.
Ah, tu le hais. Tu le hais. Ah, c'était carré.
C'est quand même un tour de force. Là, c'est comme jouer du Shostakovich. Là, évidemment, moi, je ramène ça à la musique. Là, mais c'est comme jouer du Shostakovich. Il faut que ça soit laid, des fois.
Ouais.
Faut que ça soit pas beau. Le but du truc, c'est que ça soit pas beau.
Mm-hmm.
Fait que si tu travailles tout le temps pour avoir un beau son, puis une belle phrase, et puis une belle mélodie, ben, tu passes à côté du point de ces genres de tunes-là. Puis là, c'est un peu ça que Michael Smiley nous fait, c'est qu'il est capable de nous faire détester son personnage. Ouais. Dès qu'il arrive, il est comme, il y a quoi de weird? Mais finalement, il fait son espèce de weirdo dans la forêt, puis là, on le déteste. Puis là, après ça, on le voit comme concierge du zoo, là, ou administrateur du zoo. Puis là, on se met à l'air encore plus. En tout cas, bravo. Bravo.
Mais lui aussi a joué dans Doctor Who. Mais tu sais, parce que moi, j'ai une théorie que tous les acteurs anglais ont joué dans Doctor Who.
Ben, c'est pas juste une théorie, je pense.
Là, on est deux en deux. Lui, il a joué en 2014 dans l'épisode Into the Dalek. On va voir. Je vais continuer à regarder parce que je trouve ça intéressant quand même. Tuppence Middleton. Elle a-tu un lien, tu penses, avec les autres Middleton?
Bonne question. Je sais pas. Mais ma question pour toi, c'est est-ce qu'elle a joué dans Doctor Who?
Roulement de tambour. Non. Ça fait pas assez longtemps, je pense, qu'elle a une carrière. Elle est trop jeune pour avoir joué dans...
Ah, là, 30 ans. Ouais.
31, tu sais. Elle est vraiment, vraiment bonne. Elle est très bonne. Tu y crois? Elle a cette espèce de... Tu sais, au début, là, tu penses qu'elle essaie de survivre, elle aussi. Puis quand elle switch, là, puis quand ça arrive à la fin où ils disent à la fille tout ce qui se passe, puis que... Elle devient, genre, bitch, là. Mais
elle devient de glace, là.
Ah, ouais, c'est dégueulasse. Sa transformation est comme...
Mais moi, ce que je trouve vraiment fantastique là-dedans, c'est que... Ce que j'aime là-dedans, j'aime ça quand ça arrive, des enfants de même. On est sur son profil IMDb, ou tu sais, en tout cas, on voit des photos d'elle, puis là, c'est des photos d'actrices, c'est des belles robes, des belles coiffures, tout ça. Mais encore une fois, dans White Bear, pardon,
ouais.
Complètement pas ça. C'est une ado crottée, sale, tu sais, ouais. Elle vit dans un monde où toutes les gens sont zombifiés à cause du contenu de la télévision, tu sais, puis dans... Fait que là, c'est pas ça du tout son personnage, là. C'est pas une princesse de Disney pantoute, là. Elle a de l'air des cheveux crottés, elle est tellement latte. Que ça pue.
Ah ouais, mais tu sais.
Tu regardes la télé, là, puis tu le sens, là.
Mais quand tu regardes des photos d'elle, là, c'est une jolie fille, en fait. Là. C'est très, 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 très. Tout bien arrangé, là. Ouais, ça fait drôle, là. Elle est comme.
Ça ressemble pas du tout à ça dans White Bear.
Non, elle est très tomboy, mais elle est excellente. Je te dis, man, quand elle switch, là, il y a un côté là, qui me glace. Qui te glace le sang, là. C'est dégueulasse, comment elle switch, là. Ian Bonner, c'est qui lui?
Ian Bonner, c'est...
Ah, c'est pas le gars, genre?
C'est pas le gars avec... ben, en fait, le couple.
Ah non, c'est Dude qui se fait tuer, ouais. C'est le gars qui est avec Jem, Tuppence Middleton.
C'est
le gars qui se fait tuer. Et lui, il joue un acteur qui meurt dans le scénario rapidement. Écoute, ouais. Lui, c'est comme pas...
C'est il passe pas,
rapidement. Ouais. Il est juste. Ouais. Il reste pas grand monde, en fait. C'est les seuls.
Non, après ça, il y a beaucoup, beaucoup de figurants hein, ou des gens avec des cagoules qui font juste courir des troisièmes rôles, des rôles.
Il y a la fille qui a le couteau électrique que je me demande. Il est branché après quoi?
Très bonne question.
Comment ça se fait que son couteau électrique il fonctionne? T'sais? Elle a-t-il une très, très, très longue rallonge qui la suit?
mais c'est ce qui fait aussi le succès de cet épisode-là, tant qu'à moi, c'est c'est pas du grand développement. T'sais, on réussit à rester dans le concis, dans le concentré, dans le juteux. T'sais. Pas un million de personnages. Il y en a une qui est importante. Il y en a deux qui sont à côté d'elle. Ouais. Qui sont les méchants, en fait. Et c'est tout.
Ben, Black Mirror, c'est souvent comme ça. C'est des épisodes très, très, très... On est souvent, tu sais, beaucoup dans ce genre d'affaires-là, ou dans le huis clos, tu sais, avec très peu de personnages. Mais ce que ça fait, c'est que ça donne un plus grand attachement humain au personnage, parce que t'as pas beaucoup de monde à connaître.
T'sais. Ben, c'est ça, c'est pas dilué. Puis surtout dans un épisode qui dure une heure, ben, tu sais, c'est des épisodes de 45 minutes, là. Faut rester à l'essentiel, tu sais. Ouais. Et ça, ça réussit grandement.
Maintenant, là, je voulais te parler d'une scène avant qu'on enchaîne.
Oui.
La scène là, où elle est mise dans l'espèce de truc en verre. Là.
La pape mobile.
Là. Ouais. Puis qu'elle est paradée là, devant les gens qui hurlent des noms puis qui pitchent des tomates. Là. Mm. Comment tu t'es senti en regardant ça?
Je me suis senti comme si je faisais partie de la foule qui une foule de voyeurs, en fait, qui regardent une condamnée aller à l'échafaud, là, essentiellement. Là.
Ouais.
Non, c'est pas... c'est weird. Puis en plus, c'est-tu à ce moment-là, je pense que dans l'épisode, on commence à voir dans l'écran... comment je pourrais dire ça? On voit les écrans des gens qui sont en train de filmer. Ouais. Fait que ça fait, c'est comme si nous, on était là et qu'on était en train de filmer avec notre propre téléphone.
Ouais.
C'est vraiment brillant, là. C'est vraiment bien fait.
C'est vraiment une scène forte. C'est quelque chose. Et c'est là, tu sais, je pense que ça vaut pas la peine de parler d'effets puis de trucs parce que c'est ben, tu sais, il y a pas vraiment d'effets spéciaux. Tout est dans les costumes. Dans les costumes, ce qu'on a, c'est genre le dude avec sa cagoule, tu sais.
Ouais.
C'est la cagoule. C'est toute l'espèce de linge complètement pas rapport. Ceux qui courent après, genre avec un masque de voyons, il y en a qui a un masque de soudure, puis l'autre, il y a comme un truc de licorne, là, puis un tablier, puis des gants de vaisselle. Puis... tout est tellement.
Ça n'importe quoi.
Weird, tellement. Et en opposition, encore une dichotomie avec les gens qui sont là avec leur téléphone habillés normalement, comme du monde qu'on croiserait dans la rue à tous les jours. Même si les décors, les costumes, tout ça, c'est la juxtaposition des différents éléments visuellement qui crée une ambiance absolument fascinante. Puis je veux dire, ça a été tourné sur une ancienne base américaine abandonnée. Là.
OK.
Puis ça donne tellement un côté, justement, un côté...
Abandonné.
Ouais! Apocalypse zombie, là, ça.
Vraiment.
Fait que si la première fois que tu regardes ça, quand tu sais pas, t'es sûr que c'est vrai l'histoire de télé. Puis quand ça... Quand ça ouvre, là, genre, tu vois tout le monde derrière, là, puis là, ils se mettent à raconter l'histoire, là. Oh! Mais bref. Est-ce que t'as une question pour moi?
Une toute petite.
Là, il faut que je réussisse à retrouver la toune, tu sais. Parce que c'est vraiment le jeu ces temps-ci, retrouver la toune qu'on a besoin pour le bout de l'émission.
Veux-tu que je la chante?
Ah non, ça va, je l'ai trouvé. Mais j'ai trouvé un, soyez heureux tout le monde, j'ai trouvé un nouveau soundboard. Le prochain épisode, je vais avoir un nouveau soundboard.
Sébastien.
Oui, David.
C'est une toute petite question. Parce que, évidemment, Black Mirror, donc un paquet d'épisodes qui ont aucun lien les uns avec les autres, ça devient difficile de faire des recherches sur quelque chose de particulier. Surtout d'essayer de trouver une question pas légère, en fait, sur un épisode aussi lourd. Donc, laisse-moi te poser une question qui toute simple.
Vas-y.
Est-ce que tu considère comme étant une personne attentive aux détails?
Pas du tout.
Je suis désolé pour toi, Sébastien. on le sait, donc, le personnage Victoria, le personnage principal, revit cette journée encore et encore, jour après jour et après jour. Donc, dans la plus grande partie de l'épisode, là où est-ce qu'on nous présente l'histoire pour la première fois, quelle date sommes-nous?
Le 17 octobre.
Oh, presque!
Ah, c'est le 18 octobre, non?
Oui, c'est le 18 octobre.
Ben, je devrais le savoir, le 18 octobre.
18 octobre. 18 ah, ben, octobre. Ouais. C'est pas l'anniversaire de ta fille?
Ouais. C'est-tu le 18 octobre 2012 qui était sur le calendrier? Ça serait drôle, hein?
Ben, en fait...
Il n'y a pas d'année, hein?
Ben, en fait, il n'y a pas d'année, mais c'est un vendredi. Donc, si on calcule, soit c'est en 2013 ou en 2019, peu, j'ai plus les...
Ah, fait que c'est pas la même année qu'elle
ouais, est née. Soit si on est en 2013 ou on est en 2019.
Ah, elle est née en 2012.
Vendredi 2000, en tout cas.
Ça me donne combien de points tout ça, là?
9.
Là?
Bravo, Sébastien.
On est habitué à entendre la toune des extraits. Mais il n'y en a pas d'extrait.
Non!
Ouais, parce que j'ai essayé, là, mais j'arrivais pas. J'avais tellement pas le goût de mettre des bouts juste pour vous montrer à quel point c'est lourd. Je me suis dit, tu sais, je pense que notre conversation était plus utile. Fait que j'ai pas mis d'extrait. Ce qui fait quand même bizarre, là, parce que ça fait 83 épisodes avant que je faisais des extraits. Là. Mais je te jure, j'étais là avec mon calepin, là, j'étais comme, man, faut que je trouve quelque chose. Parce que tu sais, c'est une pression pour moi, là, à chaque épisode, faut que je trouve des extraits, là.
Mais on se rappelle aussi qu'il y a certains épisodes où on n'en met pas, qu'on fait des primaires, tu sais, des affaires qu'on était le voir
au cinéma.
Ouais.
Fait que j'ai décidé de ne pas me laisser... Donc, contrôlé par la tyrannie des extraits. Mais. Et on a décidé de ne pas parler de la musique parce que c'est vraiment négligeable. C'est ah, vraiment.
Il y a à peu près pas de musique, en ouais, fait, à part la musique thème de l'épisode, là, mais à part de ça.
Même s'il y en a, là, on dirait que tu es tellement pris par ce qui se passe là, que tu te rends jamais compte de quoi que ce soit au niveau musical. Ce qui fait qu'on se lance vers.
He scores! Sébastien, vas-y. À toi l'honneur cette semaine.
10 sur 10. C'est un grandiose épisode de télévision. Black Mirror, tout vaut la peine d'être regardé, mais White Bear, je trouve que c'est un must à regarder. Je trouve que, même compte tenu du climat actuel de notre société, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Ça nous met face à la justice. C'est qui la justice? La vraie. Celle qu'on n'aime pas toujours. Parce que des fois, notre système de justice peut-être peut laisser partir quelqu'un qui est coupable. C'est vrai. Mais surtout, notre système de justice n'accuse pas des gens qui sont innocents. Généralement. T'sais. Et je pense que tu regardes cet épisode-là et tu fais comme, sais-tu quoi? Je préfère de grandement ça, d'échapper un coupable une fois de temps en temps, puis d'être sûr que des gens qui ne le sont pas se ramassent pas en prison, que la justice sociale, celle qu'on voudrait, celle qu'on du peuple, t'sais, qui a déjà été celle qui a régné pendant longtemps, sur très longtemps sur l'humanité. Je pense que c'est un petit prix à payer pour s'assurer, pour pour préserver la conscience de l'humanité, disons,
mm-hmm.
d'une société. Fait que cet épisode-là, comme à cause qu'il m'a fait réfléchir à ça, comme je dis, y a rien comme Black Mirror pour te faire réfléchir non plus. Mais ouais, c'est un 10 sur 10.
Moi, je vais donner un 9 sur 10. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à donner des 10 sur 10, mais je comprends vraiment ton appréciation de cet épisode-là et je le partage. Je donne un 9 sur 10 juste parce que... Non, pas 10 sur 10.
La perfection, ça n'existe pas.
La perfection, ça n'existe pas. Mais un 9, là, bien senti et bien gonflé. Pas gonflé, pas artificiellement, en tout cas. Mais, gars, parce que j'essaie de ne pas donner des 0.5 d'habitude, mais gars, je vais me lancer, là, 9.5.
Oh, il t'a pas fait ça, man.
C'est la concession que je suis prêt à te faire.
David, salutations, anniversaire.
Il n'y a pas beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. On est le 26 février. Sinon, l'anniversaire de Michael Bolton. Mais à part de ça, en fait, c'est l'anniversaire de Bill Duke. Je ne sais pas si tu te rappelles de Bill Duke dans Predator. C'est le Black dans Predator.
OK, oui. Oui. Ouais.
C'est son anniversaire aujourd'hui, Bill Duke. 75 ans, le monsieur.
Bonne fête, Bill. Vous aimez ce qu'on fait à Vision X? Allez faire un tour sur patreon.com/asbalbino. 1$ par mois, ça nous aide. Vous avez les épisodes avant tout le monde. Surtout que je suis tellement poche, puis j'ai tellement pas de temps pour poster des épisodes que les autres les ont comme une semaine après. Là. Mais là, on a une solution. Là. J'en parlais avec David avant. Là. Je pense qu'on va avoir de l'aide dans l'équipe là, pour nous alléger les tâches d'autres choses. Donc, on va s'occuper de faire l'émission, puis il y a quelqu'un qui va s'occuper du reste. Pour nous aider, patreon.com/asbalbino. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. David, c'est quoi qu'on va écouter le prochain épisode?
Tu sais que j'aime bien les concepts.
Oui.
Et on va se lancer dans un concept. J'hésite à le nommer plaisir coupable, parce qu'il y a quand même un film là-dedans que je n'ai jamais vu. Il y en a un autre que j'ai détesté quand je l'ai vu au cinéma. Puis il y en a un autre que j'ai adoré quand je l'ai vu au cinéma. Fait que je peux pas vraiment appeler ça plaisir coupable, même si je sens qu'on va rire beaucoup. Donc, en fait, mon concept, je dirais plutôt comédie de science-fiction. Et plutôt que d'y aller par ordre chronologique, on va y aller inversement. On va commencer avec les films plus récents, puis on va reculer dans le temps comme ça. Et on va commencer avec un film de 2001 qui s'intitule « Evolution ». Avec David Duchovny. Ensuite de ça, je te propose un film de 1900, t'as pu juste aller retrouver mes années, 1996, un film que je suis allé voir au cinéma et que j'avais détesté à l'époque, que j'avais vraiment détesté. Je me suis fait dire que ça allait être un beau film de science-fiction, tout ça, des aliens qui attaquent la Terre, et finalement, c'est une comédie pipi caca poil. Mars Attack.
T'as détesté Mars Attack?
Comment?
T'as détesté Mars Attack?
À l'époque.
Ok, fieu. C'est bon.
À l'époque, parce que c'est pas ce qu'on m'avait vendu comme salade. Là.
Ok.
Fait que j'avais détesté ça au cinéma, mais évidemment, là, je comprends là, c'est quoi
c'est
ce
bon,
qui
c'est
se
bon.
Passe.
Je vais juste être rassuré.
Et ensuite de ça, la semaine d'après, si on a toujours du temps, je propose un film de 1989. Un film des années 80, donc Bill and Ted's Excellent Adventure. Un classique.
Avec mon t-shirt de. J'ai un t-shirt de Bill and Ted.
Ah ouais? C'est quoi? Je ne me souviens pas avoir vu ça.
Ah, j'ai un t-shirt avec les deux. J'ai pas une... Je pense que c'était un loot crate à un moment donné. Il y avait ça.
Très bien. Donc, c'est ça. Je te propose un festival de comédie de science-fiction.
Super!
À rebours dans les années.
Tu m'enverras ça par écrit, je vais toutes les oublier.
Bon. En fait, tout ce que tu as écrit pour la semaine prochaine, c'est Evolution.
Oh ouais, mais je ne me rendrai pas jusque-là. Non, tu sais, je vais l'oublier avant. allez faire un tour sur Balado Québec. Là-bas, vous allez trouver tous les liens sur tout ce qui est Vision X. Vous allez pouvoir. Ça va être la manière la plus facile d'être au courant de tout ce qui se passe avec nous. Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
Et on se reparle la semaine prochaine. Vas-y.
C'est une fois un couple de sextagénaires qui sont assis sur le divan, ils sont en train d'écouter la TV, comprends-tu? Puis là, le film est pas super bon. Fait que là, à un moment donné, le monsieur, il passe son bras par-dessus l'épaule de sa femme, tu sais, puis là, il caresse sur le bord, comme ça, tu sais. Puis là, après ça, il passe la main dans son dos. Là, la madame, tu sais, oui, on touche jamais. Hein, c'est fun, ça. Puis là, il repasse par en avant, le long de la cuisse, jusqu'au genou. Il rentre à l'intérieur des jambes, il remonte à l'intérieur des jambes, jusqu'à l'entrejambe. Puis la madame, ouh, hey, c'est des sensations que ça faisait longtemps que j'avais eues. Tu sais. Puis là, il enlève sa main. Ça finit là. Puis là, la madame, elle dit, ouais, mais là, chérie, je commençais là, à être excitée. Là. Fait que là, le gars, il dit, ah non, mais c'est beau, j'ai trouvé la manette.
Bon, bravo David.
Merci.
Bye tout le monde.